Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance. On va commencer évidemment, comme d'habitude, par l'appel. Madame Borrell, si vous voulez bien faire l'appel.
Abidi Nadia, représentée par Hervé Cherubini. Abidi, non, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Ça marche pas.
Abid. Abidi Nadia, représentée par Hervé Cherubini. Merci de l'aide. Aoun Daniel. Blanc Michel. Body Bouquet Florine. Bonnet Michel. Brossard Gonfon Anne-Marie. Cherubini Hervé. Clapier Jean-Pierre. Colombet Gabriel. Dourdin, Carole. Favergeon, Yves. Gay, Michel. Giovanetti, Michel. Guénaud, Jacques, représenté par Gisèle Ravez. Guignard, Stéphane, qui va arriver, représenté par Yves Favergeon. Guillot, Pierre. Ingoglia, Angeline. Jodard, Françoise. Lapère, Pierre. Lobry, Patricia. Marin, Bernard. Marceau, Jordan. Milan, Henri. Montagu, Claudia. Nègre, Yves. Houlet, Vincent. Pascal, Martine. Perrault, Ravez, Gisèle, qui va arriver. Plot, Isabelle. Ponce, Frédéric. Rebaud, Mireille, représenté par Gabriel Colombet. Vidal, Fuentes, Denise, représenté par Françoise Jodard. Wild, Mireille. Merci.
Parfait, merci. Alors, comme d'habitude, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'adopter le compte rendu de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu? Pas de remarques? Qui est contre? Abstention? Unanimité. Alors, nous avons une grosse séance du conseil municipal ce soir. Puisque nous avons 38 délibérations plus une qui est sur la table, mais bon, vous pouvez le constater, il s'agit d'une demande de subvention, pas une très grosse délibération. C'est arrivé après la moi de l'ordre du jour, c'est pour ça qu'on se permet de vous la proposer, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous avons 39 délibérations et 23 décisions et 17 délibérations d'ordre financier.
Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Oui.
J'ai été surprise de constater que vous avez écrit à plusieurs reprises que j'étais absente, que j'avais été absente lors du dernier conseil municipal du 13 février. Alors, oui, en effet, j'étais grippée. J'avais d'ailleurs rencontré Madame Wild la veille. Mais j'avais donné procuration à Martine Pascal, qui m'a tout d'abord excusée auprès de Madame Borrell. Et qui ensuite a voté pour moi pour toutes les délibérations. D'ailleurs, ce vote a été comptabilisé dans le compte rendu approuvé ce soir. Donc déjà, c'est un peu surprenant. Et ensuite, deuxième sentiment, pourquoi pointez-vous uniquement les absences de notre groupe? Pour notre part, nous ne publions pas un communiqué chaque fois qu'un conseiller de votre groupe est absent. Heureusement, parce qu'on aurait du travail. Quant à notre participation aux réunions, je vous rappelle que nous sommes toujours présents aux commissions. Et quant aux différentes manifestations, nous sommes largement représentés. N'oubliez pas que nous sommes 6 seulement. Et que si vous calculez le pourcentage de présence chaque fois qu'il y a une manifestation, nous dépassons allègrement les 95%. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir écouté et ensuite d'essayer dorénavant d'être quand même un petit peu plus juste, sachant que, bien entendu, j'ai compris votre manœuvre politique. Merci, monsieur le maire.
Bien, madame, je ne vais pas polémiquer avec vous. Ce que j'ai écrit, ça concernait les conseils communautaires et en particulier les deux derniers.
Pas du tout.
Un où vous êtes venu, vous êtes exprimé. Bon, vous avez dit qu'il ne fallait pas faire une interco unique parce que je voulais en être le président. ce qui est complètement faux. Et puis ensuite, vous êtes levé, vous êtes parti. Bon, très bien. Alors que ça avait une importance cruciale.
Monsieur le maire, nous sommes en conseil municipal, nous ne sommes pas en conseil communautaire. Et je vous parle. Non. Je vous parle de ce journal où vous parlez du conseil municipal du 13 février, aussi bien que sur les réseaux sociaux. Donc je ne vous parle pas du conseil communautaire, absolument pas. Je vous parle du conseil municipal. Vous qui me reprochez de ne pas lire les journaux, je crois que vous devriez d'abord lire celui qui paraît au nom de votre commune, votre ville. Merci.
Bien, très bien. Allez, je vous propose de passer aux décisions. Donc la première, la 2018-10, relative à l'attribution de l'indemnité compensatrice due à la hausse de la CSG. C'est à la demande de la trésorerie, on applique une circulaire gouvernementale. La numéro 11, modification du contrat de maintenance multisite de l'ensemble des horloges et sonneries communales. Donc il y a 4 horloges qui sont listées sur la décision et il y aura un avenant en fin de décision qui concerne le paratonnerre que nous avons à Saint-Rémy sur l'église. La décision 2018-12, il s'agit donc des réserves du musée et d'un contrat de dératisation pour le musée des Alpilles, parce qu'on s'est aperçu que les sacs de Chardon-Cardère étaient un peu rongés par les nuisibles. Donc on va dératiser. Voilà. Alors c'est pas le musée, ce sont les réserves, hein, je tiens à vous rassurer. La décision numéro 13, mission de coordination, sécurité et protection de la santé sur le chantier aménagement de l'avenue Louis-Mistral. Mission classique, vous connaissez. La numéro 14, il s'agit d'une installation de consommation d'électricité, donc un raccordement, s'il vous plaît, avec Enedis. Donc il s'agit de la borne du parc naturel régional des Alpilles, borne électrique pour les voitures. La décision numéro...
Maire, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il s'est passé pour la borne qui était sur l'avenue de la Libération, s'il vous plaît ?
Eh bien, comment dire, la protection de la borne et la carcasse de la borne ont été installées, pas la borne, par la communauté de communes. C'est un manque de coordination entre les services que j'assume totalement. Et quand je me suis aperçu qu'on commençait à l'installer, j'ai appelé en disant non, il ne faut pas la mettre puisqu'il va y avoir des travaux avenue de la Libération. Donc les travaux ont démarré, ils ont été stoppés et le garde-corps qui a été installé plus la carcasse ont été enlevés. Voilà. Alors, la numéro 15, séjour de ski organisé par la Maison de la Jeunesse. Donc, le séjour était complet, 35 jeunes. Voilà, ça s'est très bien passé. Vous avez les détails du séjour de ski. Parfait. La numéro 16, un petit avenant pour les travaux d'agrandissement et d'accessibilité au COSEC. Donc, vous avez le montant, 734,20 €. Ça représente 1,11% du marché initial. Il y en a encore deux autres, encore plus petits, qui vont passer. La numéro 17, aide aux vacances enfants, convention de financement et séjour collectif. C'est une convention avec la CAF. Vous avez déjà vu ce type de décision dans cette assemblée. La décision numéro 18, convention pour la réservation de places auprès de l'association Centre Vacances et Loisirs de Cabanes. Ça, ce sont des décisions qu'on prend annuellement, hein, les colonies de vacances des enfants. Donc c'est la numéro 18. Idem pour la numéro 19. Cette fois, c'est avec l'association La Roseraie, qui est à Carpentras. Et la numéro 20, c'est avec l'association Sous des écoles laïques. Là, cette fois, c'est à Plein d'Orgon. Voilà. Là aussi, c'est du grand classique. La numéro 21, contrat d'assistance et maintenance logicielle pour la bibliothèque. 3 362 € TTC. Je trouve que ça fait très cher, mais bon, difficile de s'en passer. Voilà pour cette décision. La numéro 22, location de l'Alpilium pour un festival de jeux. Dans la mesure où les entrées étaient payantes, même s'il s'agit d'une association sérémoise, on a demandé donc une participation. Vous l'avez sous les yeux, 150 € TTC. La numéro 23, même chose, association sérémoise, mais dans la mesure où il y a des droits d'entrée, donc il y a quelque chose qui est payé à la ville en contrepartie de la location et de la mobilisation du personnel. Donc 300 € pour une journée et une journée de préparation. Et il y a aussi un food truck donc, qui paie sa participation. La numéro 24.
Monsieur le maire, bonsoir. Concernant cette décision...
Ça, c'est quand on le loue au privé, mais Madame Lobry dira mieux que moi. Oui, il y a des tarifs différenciés entre associations privées, associations locales, pas locales. Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur. Ouais. Alors, on en était à la numéro 24, convention d'honoraires avec la société d'avocats Buravan et maître Giguet-Faupin. Il s'agit, c'est toujours cette affaire de Feria 2015, où un certain nombre d'agents de police ont été agressés par une bande alcoolisée. Donc, il y a un des agresseurs qui a été condamné à un an de prison ferme. Et il fait appel, ce qui est évidemment tout à fait son droit. Donc là, il s'agit des honoraires de la défense de la ville en appel, puisque la ville prend en charge donc, les honoraires pour défendre les agents municipaux, ce qui là aussi est logique et normal. Voilà. Ensuite, la décision numéro 25. Institution d'une régie de recettes spectacles au service des affaires culturelles. Donc ça remplace une décision de 2016. Donc le but, c'est de revoir le montant de l'encaisse sur la régie spectacle. Voilà, la vente des billets, à la demande de Madame Touvouré. La numéro 26, il s'agit là aussi, à la demande de Madame Touvouré, décision portant sur le fonctionnement d'une sous-régie de recettes relative à l'allocation de l'Alpilium. C'est un changement de mode d'encaissement pour l'allocation et l'intérêt de cette décision, c'est d'avoir la possibilité de demander des acomptes, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la décision numéro 23. Alors, l'année suivante, la numéro 27, travaux de réhabilitation de l'ancienne école de la Libération. Il s'agit de la rénovation de 3 classes pour les associations locales, pour avoir une salle de formation pour le personnel municipal et pour le local syndical du syndicat, puisque aujourd'hui il n'y en a qu'un, hein, des agents communaux. Voilà. Le montant total que vous avez sur cette décision, c'est environ 109 000 euros hors taxes. La décision numéro 28, c'est le deuxième petit avenant donc à un lot sur les travaux d'agrandissement du COSEC, 359,16 euros. Bon, je passe, hein, vu le montant. La décision numéro 29, tarif des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse. Il s'agit de Jump Indoor. Donc ça s'est déroulé le samedi dernier, le 24 mars, et il y avait 14 jeunes, donc c'était le maximum qu'ils pouvaient accueillir. La décision numéro 30, il s'agit d'une mission globale de finalisation du PLU incluant études du risque ruissellement centenal et études de circulation et stationnement. C'est l'avenant numéro 1 qui n'a pas d'incidence financière, c'est juste une modification interne du paiement entre les différents intervenants, mais ça ne modifie pas le devis initial. La numéro 31, ben c'est le troisième avenant dont je vous parlais du COSEC. Cette fois, c'est un montant de 340 euros et c'est le lot 4. Et enfin, la dernière décision, la 32, contrat de maintenance multisite de l'ensemble des horloges et sonneries communales, c'est le paratonnerre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sur le toit de la collégiale Saint-Martin. 96 euros TTC. Voilà. Alors, on aborde maintenant les délibérations du conseil municipal. Première délibération, il s'agit d'une convention entre la préfecture des Bouches-du-Rhône et la ville de Saint-Rémy relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Vous savez que chaque fois qu'on prend une décision, un arrêté, une délibération du conseil municipal, on le transmet à la sous-préfecture au contrôle de légalité qui vérifie évidemment que la décision, la délibération ou l'arrêté qu'on a pris est conforme au texte. Et aujourd'hui, évidemment, avec les moyens de transmission électronique que nous avons, il paraît logique de transmettre tout ça sous forme dématérialisée. C'est ce qu'on vous propose à travers la signature de cette convention entre la commune et monsieur le sous-préfet, donc le représentant de l'État.
Monsieur le maire, nous sommes tout à fait d'accord qu'il vous faille appliquer la loi, bien sûr. Simplement, la dernière ligne, la dépense sera prélevée au budget de l'exercice en cours.
pense que c'est portable.
Moi, je n'en ai pas en tout cas, hein, mais c'est peut-être mon voisin. Oui, je vous demandais simplement, par rapport à cette délibération, sur quelle ligne de l'exercice en cours allons-nous trouver la dépense qui concerne donc cette mise en œuvre de télétransmission ? Parce que très souvent, on voit ça, hein, il est noté, la dépense sera, d'ailleurs aussi bien en dépense qu'en recette d'ailleurs, ça sera noté sur le budget, mais on ne sait jamais sur quelle ligne, je crois bien qu'on vous l'avait déjà demandé. On ne sait pas ni la somme, ni, le,
et d'abord,
ni la ligne.
Est-ce qu'il y a un montant de dépense, monsieur Vallée ?
Vraisemblablement un montant de dépense, puisqu'il faudra acquérir un logiciel qui servira également pour la dématérialisation comptable.
Oui, bien sûr.
On a le devis qui est en cours de validation auprès de l'éditeur.
Et est-ce qu'on sait sur quelle ligne ?
Vraisemblablement du 2051 logiciel.
Merci beaucoup.
On vous fera savoir dès qu'on aura un devis arrêté. Pas de problème. Mais sinon, la télétransmission, évidemment, est gratuite. C'est le matériel, là, en fait.
Donc,
vous
oui, voyez. Oui.
Bien, sur cette signature de convention, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité. Alors, on poursuit avec l'appel à projet en vue de la passation d'un bail emphytéotique administratif assorti d'une concession de travaux pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l'ancienne décharge de Saint-Rémy. Alors, vous l'avez dans la délibération qui vous est proposée. Les trois candidats les mieux placés sont arrivés, on dirait qu'on est aux élections à Fauvier, dans un mouchoir de poche. Donc, ce qu'il vous est proposé aujourd'hui, c'est de poursuivre les négociations avec les trois soumissionnaires. Sachant que c'est dans l'intérêt de la commune, parce que, bien évidemment, je pense que les trois vont faire des efforts supplémentaires dans le sens souhaité de la commune. Voilà. Vous avez les chiffres, hein. 79,93, 80,36 et 80,96. Donc c'est très très proche. Et il nous semble logique de poursuivre la négociation, de faire part à chacun des deux autres de où ils se situent, et puis de faire en sorte qu'ils aillent plus loin dans leur proposition en faveur de la ville. Voilà.
Comment se fait-il que nous avons reçu ce projet de délibération avant notre dossier de conseil ?
Parce que c'est la loi. Sur ce type de délibération, sur ce type de passation de marché, c'est 10 jours, 15 jours ? Aidez-moi, Madame Borel.
Non, mais enfin, bon, peu importe. On l'a reçu avant, on ne comprenait
15
pas.
15 jours.
15 jours.
D'accord. Merci.
Voilà, ceci explique cela. Ensuite, Monsieur Houlet.
Une convention qu'on a l'habitude de voir avec Enedis. Pardon, on n'a pas voté.
Excusez-moi alors. 8. Alors, pour ce qui est de poursuivre la négociation avec ces trois entreprises, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, monsieur Houlet.
Comme on a l'habitude de voir avec Enedis, il s'agit pour Enedis de renforcer une ligne haute tension sur 23 mètres de long et pour on aura une modique somme de 20 euros.
Très bien.
Sur cette simple remarque, je trouve que la compensation 20 euros, elle est extrêmement faible. Je pense qu'on aurait pu échanger d'autres choses. Non ?
Qui sont en cours, on ne peut pas négocier plus cher ou moins cher, c'est les tarifs.
Moi, je ne parlais pas en termes de tarifs, je parlais en termes de services, mais bon.
Bien. Sur cette proposition de convention, qui est contre ? Abstention ? Une abstention, M. Milan. Adopté. Ensuite, M. Houlet.
Il s'agit ce soir de retenir le maître d'œuvre pour la création d'un parking de surface de 400 places équipé d'ombrières photovoltaïques au quartier du Clos des Cèdres. Donc la société qui a été retenue est la société Artelia Ville et Transport pour un montant provisoire de rémunération de 53 060 euros. Tranche ferme, mission de base 32 470 euros hors taxes. Mission complémentaire, étude par cas, permis d'aménager, etc., 8 430 euros. Tranche optionnelle, assistance en maîtrise d'ouvrage en brière photovoltaïque, 4 430 euros hors taxe. Et assistance en maîtrise d'ouvrage en brière photovoltaïque, 8 030 euros hors taxe.
Alors,
monsieur le maire.
Après vous, chère madame.
Oh, merci. Monsieur le maire, implanter 400 places de parking, ou monsieur Houlet d'ailleurs, on pouvait répondre bien entendu, autour des immeubles de 150 logements, est-ce que cela implique un parking à étage? Donc ça c'est la première question donc qu'on aurait envie de poser. Et c'est ce qu'avait plus ou moins démontré EPF en commission des Cèdres et avait abordé cette possibilité. Donc, comme nous n'avons plus eu, enfin, nous ne connaissons pas vraiment le vrai projet qui concerne les Cèdres, on se demandait si il s'agirait donc d'un parking à étage.
Nullement question, ce sera un parking à ras du sol.
Oui.
Pas d'étage.
D'accord, pas d'étage. Ok. Et donc, l'intérêt de placer des ombrières sur ce parking, alors, avec une surface... Ben, ah non, là, ça sera plus large, oui. Donc, au contraire, ça rapportera, c'est ça? Et oui, parce que si on l'avait mis sur étage, ça serait assez restreint, oui. Et donc, l'étude n'est pas encore tout à fait ficelée, faite, projetée.
Je viens juste de vous dire, c'est le titre de la délibération, qu'on vient de prendre un maître d'œuvre pour faire l'étude.
Oui, j'ai bien compris.
Donc,
mais
quand
on demande,
il n'y a rien pour.
Comment dire, de faire un cahier des charges, c'est que souvent, on sait déjà quand même un petit peu ce qu'on veut.
C'est le travail du maître d'œuvre.
Et vous n'intervenez pas?
Naturellement, on suit le maître d'œuvre.
Non, mais d'accord. Mais là, actuellement, vous pourriez déjà avoir une idée de ce projet. Voilà, c'est tout. Écoutez, merci. Henri, je te laisse la parole.
Alors déjà, je m'associe à tous les membres de la commission des Cèdres pour regretter que cette décision soit prise ce soir, sans concertation une fois encore. On va pas me faire un roman, je suis bien d'accord avec vous, monsieur le maire. Deuxièmement, j'ai besoin d'une précision. Il semblerait que les places de stationnement seront faites sur l'ensemble de la totalité de l'emprise des terrains de la commune. On est bien d'accord? Ok. Donc, ça veut dire que vous repoussez les bâtiments au sud et un délai un peu plus long, un peu plus lent pour construire, si vous voulez, construire là-haut.
En fait, sur la zone des Cèdres, il y a 2,7 hectares. On va construire sur la partie communale, ce qui nous permet de le faire, quand je dis de suite, après les études, le lancement des marchés, etc., etc. Tout ça, évidemment, va prendre forcément plusieurs mois. En fait, c'est la partie nord, c'est la partie où aujourd'hui il y a des vieux pommiers ou poiriers, c'est tellement vieux, il y a tellement de broussailles autour, de rôles, c'est tout ce que vous voulez, qu'on ne connaît même plus la variété des arbres. Bon, peu importe, c'est les poiriers, voilà. Donc on va construire sur cette parcelle et sur un petit bout au sud de cette parcelle, et évidemment en utilisant le plateau d'évolution qui aujourd'hui fait déjà office de parking, voilà. Et on ne fait, quand vous parlez de la commission des Cèdres, depuis le début, on a dit, on a répété, bon, visiblement, on n'a pas été très entendu parce que, bon, il s'est diffusé souvent l'inverse. On a dit, on a répété qu'on maintiendrait les 400 places de parking. Ben voilà, aujourd'hui, on les réalise, on tient notre engagement. C'est tout.
Alors, vous l'avez effectivement dit, mais après qu'on ait commencé une pétition qui a réuni 8000 signatures. Ça, c'est un petit détail. Deuxième question, les haies de cyprès, qui pour moi sont emblématiques, sont conservés dans ce projet de parking ou pas?
Mathilde de Mazuy, je vous laisse répondre sur la haie de cyprès. Et je pense qu'il y en a une qui est concernée. Hein. Si ma mémoire est bonne, vous connaissez mieux que moi.
Alors, les terrains communaux sont bordés par trois haies de cyprès et une haie de thuya. Sur les trois haies de cyprès, celles qui sont le plus au nord et le plus au sud, il est demandé au maître d'œuvre de les conserver, surtout qu'il y en a une des deux qui fait partie de la trame verte et bleue, que vous avez dans les documents que vous verrez après. Celle du milieu, il faudra voir, c'est les études qui détermineront d'abord dans quel état elle est, parce qu'aujourd'hui, elle jouxte le terrain où il y avait des poiriers, et elle est complètement... caché par effectivement des ronces et autres. Il y a des caisses qui permettent de poser un peu les arbres, donc savoir dans quel état elle est sanitairement. Et après, on verra lors des études si elle peut être gardée ou pas. D'abord, nous avons une phase de diagnostic qui nous permettra de déterminer la faisabilité des ombrières. S'il y a des ombrières, effectivement, peut-être que cette haie ne sera pas gardée. Donc sur les trois haies en question, deux seront gardées et une, pour l'instant, sera à l'étude.
D'accord. Dernière question, donc ces terrains vont être revêtus, il va falloir faire des bassins de rétention, où est-ce que vous les prévoyez?
C'est l'étude
qui le dira.
Définir. Mais peut-être que Mathilde Mazuy...
Pour l'instant, dans le cahier des charges que nous avons transmis au maître d'œuvre pour qu'il puisse nous faire une proposition financière, il a été demandé d'évaluer la possibilité de faire plutôt une noue le long de la haie qui est le plus au nord, justement pour la préserver, pour éviter que des l'enrobés aillent trop près des arbres et avoir de l'irrigation qui permettrait de récupérer toutes les eaux qui vont sur les terrains et avoir un système de rétention doux, assez peu profond, qui préserverait en même temps les arbres. Mais pour l'instant, ça sera effectivement un des objets de l'étude qui va être démarré par Artelia.
D'accord. Donc je conclue simplement, avant que M. Guay prenne la parole peut-être, vous savez que dans notre esprit, ce parking n'est pas simplement conçu aujourd'hui pour aujourd'hui justement. Il engage la commune. Je pense qu'il y a d'autres endroits dans le centre-ville qui devraient être piétons ou devraient être pas occupés par des voitures en stationnement. Donc, c'est pour ça que nous avons, nous aussi, parlé depuis le début de 800 places. Vous en proposez 400, c'est déjà bien. Je vous en donne acte. Mais je préférerais avoir à voter pour une délibération qui parle de 800 places que de 400.
Monsieur Guay.
Par rapport à l'emplacement des terrains, est-ce qu'il n'y aura pas des contraintes architecturales pour faire des photovoltaïques? Par rapport au compte de vue, non? Par rapport à l'église, pour le compte de vue?
C'est l'objet de la première mission de maîtrise d'œuvre concernant les ombrières photovoltaïques, puisque nous limitons sur la tranche ferme à la faisabilité, qui va prendre tous les éléments en compte. Et ensuite seulement, si la faisabilité est donc faisable, si donc on peut mettre les ombrières, on verra sur les études complémentaires pour le reste de la mission de maîtrise d'œuvre.
Bien. Monsieur Milan, vous nous avez indiqué souhaiter 800 places dans votre profession de foi pour le deuxième tour des élections municipales. Je lis... Créer un parking de 350 places sur les terrains des cèdres. On en fait un de 400. Voilà. Alors peut-être que bon, il y a eu une inflation de 100 places par an, mais bon, on est logique avec nous-mêmes, on conserve les 400 places de parking.
Vous avez totalement raison, monsieur le maire. Ça prouve bien que nous sommes d'accord tous les deux pour faire évoluer notre position. Et vous savez très bien pourquoi. Si je vous rappelle pas ce que vous vouliez faire à Ussol non plus. Et votre premier projet au Cèdre, c'était combien de logements sans parking, sans rien?
Non.
C'était sans rien, bien sûr que
non,
oui. C'était sans rien. Réécrivez-la, ressortez les tracts que vous voulez.
On a dit qu'on conserverait les 400 places de parking, c'est ce qu'on fait.
Oh, voilà. Moi, j'ai pas fermé mon Facebook de campagne.
Bon, d'accord. Alors, sur cette création d'un parking de surface de 400 places équipé éventuellement d'ombrières photovoltaïques, attribution du marché des maîtrises d'œuvre, qui est contre? Pas de contre. Abstention. Alors. Abstention. Monsieur Milan, Madame Ingoglia, Monsieur Guillaume, pas Monsieur Pose, Madame Pascal, Madame Aoun. Donc, 5 abstentions. Et bon, ça fait 28 pour. On avait 3 groupes, il y en aurait-il 4? Bien.
On n'a pas entendu.
Monsieur Houlet.
Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur?
Travaux d'aménagement de l'avenue Théodore Obanel, réfection du parking du collège, sécurisation et accès et création d'une zone de stationnement de bus. Donc, suite à la commission d'offres qui s'est passée le 22 mars, l'entreprise qui a été retenue, c'est la société Eiffage 84 300 Cavaillon pour un montant hors taxe de 369 534,50 euros.
Alors, je profite de cette délibération pour poser une question. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ERAG est en train de finaliser son projet de collège. Il semblerait qu'il y ait des classes dans notre collège Glanum qui soient en très mauvais état. Est-ce qu'il est prévu un projet de rénovation ou alors est-ce qu'à terme Saint-Rémy ne va pas fermer au profit d'ERAG ?
Non, monsieur Millard, Saint-Rémy ne fermera pas au profit d'ERAG. Je vous rappelle que les collèges, c'est une compétence
départementale.
Tant que le département existe. Donc, c'est une question qu'il faut poser au département, mais moi, je peux vous garantir, sans vouloir parler ou non de la présidente du conseil départemental, que le collège de Saint-Rémy ne fermera pas. Par contre, aujourd'hui, il y a le collège Rococoqui à Château-Renard qui est archi-plein. Celui de Saint-Rémy, il est plutôt bien plein, on dira ça comme ça. Sachant que Saint-Rémy accueille un certain nombre d'élèves d'ERAG, si demain il y a un collège à ERAG, ben, il y aura quelques élèves éragués qui aujourd'hui sont à Saint-Rémy qui seront sur ERAG. Par contre, les Saint-Rémois et a priori les Mayannais continueront à aller au collège à Saint-Rémy. On ne va pas fermer le collège de Saint-Rémy. Après, qu'il y ait besoin de rénover un certain nombre de classes, ça, ben, comme dans tous les bâtiments publics, hein, évidemment. Hein. Mais bon, on ne va pas fermer Saint-Rémy au profit d'ERAG. C'est une aberration.
Disons que financer un parking pour une somme aussi importante, il faudrait que ça soit sûr qu'on gardera ce collège. J'ai lu attentivement l'interview qu'a donné monsieur le maire d'ERAG à la Provence. Il cite bien Saint-Rémy dans les communes intéressées pour venir scolariser des enfants chez lui.
Je viens de vous le dire, monsieur Milan, aujourd'hui, il y a des élèves d'ERAG qui viennent à Saint-Rémy. Si demain, il y a un collège à ERAG, il est évident que les élèves d'ERAG iront sur ERAG. Voilà. Mais c'est pas pour autant que le collège de Saint-Rémy va fermer. De mémoire, je crois que c'est une petite centaine. Donc, face aux 5 ou 600 élèves saint-rémois et aux 100 ou 200, je n'ai pas forcément les bons chiffres en tête, ça ne posera pas de problème particulier.
Mais est-ce qu'il n'y aura pas une incidence sur les professeurs? Parce qu'en général, les professeurs ont un certain nombre d'heures qui leur sont attribuées en fonction de l'effectif. Donc s'il y a des classes, enfin si des enfants partent sur ERAG, forcément il y aura moins d'élèves et donc il y aura... Comment ?
Non mais forcément, mais moi vous me demandez de répondre à la place du conseil départemental et de l'éducation nationale, c'est compliqué.
Non, on vous demande pas de répondre, ce ne sont que des réflexions à voix haute, c'est tout. Je pense qu'on est quand même dans une soirée où on peut s'exprimer, donc on vous dit simplement que, enfin moi en tant qu'enseignante, je pense aux enseignants, c'est tout, après...
C'est sûr que s'il y a quelques dizaines d'élèves en moins, il y aura probablement des heures de cours en moins. C'est même mécaniquement, c'est forcément le cas. Mais bon, encore
parce que
fois,
quand je vous entends parler de 100 élèves, ça fait une sacrée différence. Non,
attendez, je vous ai donné les chiffres, j'ai pas les chiffres en tête, je ne veux pas vous dire de bêtises.
Bon, d'accord.
Bon, voilà, on les vérifiera, ces chiffres, on vous les fournira.
À propos de chiffres...
Toute petite précision par rapport à ça, quand il y a deux collèges aussi proches, il peut arriver qu'il y ait des emplois du temps mixtes. C'est-à-dire qu'un enseignant complète son activité par un autre collège. Et là, de toute évidence, c'est ce qui va se passer pour certains d'entre eux.
Ouais. Monsieur Houlet, vous pouvez me rappeler le montant ?
Le montant sur la délibération, c'est 4,50 euros hors taxe. Vous l'avez ?
Oui, non, moi j'ai gardé l'ancienne. 360 000. Moi je trouve que c'est très cher, mais on fait bon.
Bien.
Ben, écoutez, c'est pas simplement de passer, monsieur Milan, vous trouvez que c'est très cher, mais c'est pas simplement de passer une couche d'enrobée. On sécurise complètement toute l'avenue Théodore Obanel, on reprend tout l'éclairage à LED, c'est quand même pas mal de travaux, il y a quand même pas mal de travaux. On a aussi une contrainte par rapport à la fédération de foot où il faut faire une entrée pour les autres bus dans le stade sécurisé. Donc on a profité aussi pour mettre tout ça dans l'ensemble, et le montant, il est là. Voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, par contre, que le parking, je vous aussi de le rajouter, sert que pour le collège. Il ne sert quand même pas que pour le collège. On va quand même offrir 145 places de parking qui pourront être utilisées quand vous avez un spectacle à l'Epilium, puisque vous avez un passage pour aller à l'Epilium, et qui peut servir aussi à tout administré ou... Oui, au stade, et aussi aux vacanciers qui viennent et qui payeront 0 euros sur ce parking.
Oui, d'accord. dans ce cas-là.
Bien. Sur cette attribution de marché de travaux, qui, je vous le rappelle, travaux qui sont particulièrement attendus par les par un élève du collège. Parce qu'aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre parking, il n'est pas brillant quand même. Hein. Donc je pense que ce sont des travaux nécessaires. Et encore une fois, je répète, il n'y aura pas de fermeture du collège de Saint-Rémy. Bien. Sur cette attribution de marché de travaux, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, on poursuit avec les dossiers culture. Madame Laubry.
Bonsoir. Deux délibérations, dont la première qui concerne l'actualisation du règlement intérieur. On n'entend pas ? L'actualisation du règlement intérieur de l'Alpidium. Je vous rappelle que l'Alpidium a été inauguré au mois de février 2013 et qu'un premier règlement avait été voté à la séance du 13 décembre 2013. Depuis, 5 ans se sont écoulés et le fonctionnement et l'organisation qui incombent à cet équipement n'ont cessé d'évoluer. Nous sommes à même aujourd'hui de vous présenter un règlement intérieur qui prend en compte toutes les mesures nouvelles qui permettent une meilleure efficience du service rendu et une organisation beaucoup plus respectueuse des règles de sécurité et des conditions de travail du personnel. Ça m'est très difficile d'entrer dans le détail, mais je peux au moins vous donner une idée de ce que nous avons supprimé et de ce que nous avons ajouté, et bien sûr répondre aux questions que vous pourriez poser. Donc, nous avons supprimé, par exemple, le détail des différentes configurations qui sont consultables sur place. Les références aux articles de loi, parce que en fait c'est extrêmement fastidieux et personne ne les lit. Le détail exhaustif des obligations et usages qui figurent dans la convention, puisque c'est particulier à chaque location. La mise en place du mobilier et la décoration et le contrôle, l'hygiène, les débits de boissons au cas où ils sont utilisés par les associations. Pareil, cela figure dans les conventions puisque c'est du cas par cas. En revanche, nous avons insisté et ajouté sur une obligation de réunion technique de préparation qui se faisait, hein, bien évidemment, mais cela ne figurait pas dans le règlement intérieur. Il y a également une nouveauté qui a été décidée en commission, puisque vous savez qu'il y a une commission Alpidium hein, qui décide de l'octroi de la salle de l'Alpidium. Au départ, il était accordé aux associations trois dates gratuites. Au vu des demandes et pour pouvoir donner satisfaction à chacun et puis s'autoriser aussi la possibilité, se garder de temps en temps des créneaux pour pouvoir aussi générer des recettes et éventuellement envisager de louer l'Alpidium, on met à disposition toujours 2 dates gratuites aux associations et 1/3, mais en dehors des vendredis, samedis et dimanches, justement pour permettre une location extérieure. Et si cette 3e demande était impérativement retenue pour un samedi, un dimanche, à ce moment-là, il y aurait une valorisation de cette location et on demanderait un financement à l'association. On parle également de la tarification de la location, bien évidemment. Et donc, comme tout à l'heure sur la décision, vous avez pu le constater, il a été créé une sous-régie, ce qui nous permet de pouvoir recevoir des acomptes par chèque, évidemment. Hein, il n'est pas question, ou par virement, il n'est pas question de manipuler des espèces. Ensuite, nous parlons également de l'obligation et d'identification du preneur de la salle, ce qui nous permet de vérifier la nature de l'événement et surtout faire très attention à l'assaut dont il s'agit, qu'il ne s'agisse pas, par exemple, d'une secte éventuellement. Hein. On a un cadre dont le nom est c'est assez compliqué, un GEMPPI. Ne me demandez pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, on peut savoir à quelle association on a affaire et si elle est sur liste noire, entre guillemets. Et ensuite, on met aussi en avant, dans ce règlement intérieur, la responsabilité du preneur de la salle en tant qu'organisateur sur le déroulement, la gestion du public et les droits d'auteur. On apporte également des modifications sur le descriptif plus concis de la salle. Les obligations concernant la sécurité ont été détaillées. Des obligations de fonctionnement également sur une formule large a été employée, car chaque cas est particulier et la convention de mise à disposition met bien en avant les points à respecter en fonction de chaque événement. Enfin, une formule générale remplace tout ce qui concerne la déco et la mise en place du mobilier. C'est pareil, ça figure sur la convention. Vous en avez également un modèle. Et enfin, dernier cas, en cas de restauration, on appuie sur l'hygiène qui est également stipulée dans la convention. Donc, évidemment, ce document pourra être actualisé à chaque fois que nécessaire, parce que je pense qu'il y aura toujours des modifications à apporter. Mais je propose que ce soit fait par décision du maire. Donc, je demande évidemment au conseil municipal d'adopter ce nouveau règlement intérieur de l'Alpilium et d'autoriser monsieur le maire à signer les contrats de location et les conventions de mise à disposition dont un exemplaire type figure en annexe. Tout à l'heure, je vous parlais de la commission Alpilium, donc qui fonctionne et qui octroie la disposition de l'Alpilium. Suite à cette commission, il est bien évident que dans les 15 jours qui suivent les décisions, un courrier est envoyé à chaque preneur, afin qu'il sache de quelle façon lui est octroyée la salle et qu'il reçoit également la convention qui va avec et qui stipule très précisément l'utilisation qui en est faite.
Bien, merci beaucoup, parce que nous, justement, nous n'étions pas là en 2013 et donc on n'avait pas eu le premier règlement, en fait. Et donc, quand on a vu cette délibération, on avait dit synthétiser, oui, mais qu'y a-t-il de changé, de supprimé, de rajouté? Donc, tu as répondu à ce qu'on voulait demander.
On y a beaucoup pensé, on y a énormément travaillé avec les services, hein, bien évidemment. Alors, j'ai à votre disposition le premier règlement, mais bon, je ne pense pas qu'il soit d'une grande utilité.
Non, non, là, maintenant, pas du tout. Dans la mesure où tu as répondu aux questions qu'on se posait, ça va, hein, bah, bien sûr. Bah,
merci
oui,
beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Bien. Est-ce qu'on peut passer aux voix? Non, Monsieur Gay.
Question. Sur 2017, l'Alpilium, combien de fois a été loué en payant? Est-ce que dans le nombre de manifestations payantes qui ont eu lieu à l'Alpilium et qui ont apporté à la ville, voilà, le nombre et le montant de location qu'il y a eu de l'Alpilium sur 2017?
Extérieur,
oui.
Je crois pas.
Il faudra passer le chiffre, hein. Il faudra passer le chiffre, monsieur Guy. Non, mais c'est pas énorme, hein. C'est sûr que c'est pas énorme, mais il faudra passer le chiffre.
Il y a effectivement certaines associations qui utilisent l'Alpilium aussi à but commercial. Donc là, il y a un acte commercial. Et donc, si c'est une association saint-rémoise, effectivement, on lui demandera 300 euros si c'est pour la journée ou 150 si c'est pour la demi-journée. Mais d'associations complètement extérieures ou d'entreprises, là, on n'est pas très... C'est pour ça qu'on propose cette solution de deux fois et une troisième fois en dehors des week-ends où, effectivement, on pourrait générer des recettes.
Il y a eu quelques décisions qui sont passées les dernières sur la question de l'Alpilium. Effectivement, ce sont pas des montants qui sont très importants. D'où l'objectif de développer. Je ne les ai pas en tête, c'est pour ça qu'on vous fera une réponse par écrit.
Et sur cette actualisation du règlement intérieur de l'Alpilium, alors qui est contre? Abstention? Unanimité? Ensuite, Madame Loubry? Donne le tableau, voilà.
Tableau. Donc voilà, je voudrais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Roudier, qui est un monsieur qui a déjà un âge bien très avancé, qui a plus de 80 ans. Il est peintre amateur, il habite à Cabanes, et depuis l'âge de 15 ans, ce monsieur peint. peint son environnement et entre autres il a fait beaucoup de toiles sur Saint-Rémy, sur les Alpilles, sur son environnement. Et il a eu très envie de faire don de ses œuvres. Il a déjà fait des donations dans sa commune. Il a peint l'environnement de sa commune. Il a fait une donation à Château-Renard, une donation à Graveson, et donc il souhaite remettre à la ville de Saint-Rémy donc 250 tableaux qu'il a peints au cours des peut-être 30 dernières années. Et ce don est totalement inconditionnel. C'est vraiment pour c'est peint pour l'amour de peindre et après de partager. Et donc on a pensé si cette délibération est acceptée, faire profiter de ces tableaux l'EHPAD, le Mas de Sarré, pourquoi pas aussi des endroits de la mairie, pourquoi pas les écoles. Et on a pensé que le moins qu'on pouvait faire pour remercier ce monsieur, c'est bien évidemment signer une convention et organiser le jour de la signature de la convention une exposition en son honneur. Voilà. Donc je vous propose que la ville accepte ce généreux don de la part de monsieur Roudier et qu'on autorise le maire à signer cette convention de don.
Et vous les avez vus, ces tableaux? Parce que si c'est 200 tableaux, mais qui sont d'un goût douteux.
Pour pouvoir en discuter déjà en majorité, on a fait une petite exposition dans la salle d'adjoints. Et ça a été très apprécié. Alors, on a pensé à le faire ce soir, mais c'est un petit peu compliqué dans la salle d'honneur. Mais en revanche, j'en ai à peu près une trentaine dans mon bureau. Et vraiment, ils sont visibles. Donc, venez voir dans mon bureau.
Et on passera les voir, d'accord. Merci.
Ouais. Merci. Alors, concernant ce don de tableau de M. Roudier, qu'on remercie, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? On passe maintenant au dossier environnement. Donc, Madame Ravez.
Oui, bonsoir. Donc, cette première délibération concerne en fait les obligations légales de débroussaillement. Donc vous savez que la commune a pris à bras le corps cette problématique, donc aussi bien chez les particuliers que sur les terrains communaux, puisque bien entendu on est également concernés, tous les propriétaires sont concernés. Donc cette délibération en fait s'articule autour de trois parties. Le premier paragraphe en fait concerne une demande d'aide pour mener une étude, un plan de gestion en fait des obligations légales de débroussaillage sur les voiries, aux abords des voiries communales. Pourquoi est-ce qu'on demande à voir ça de plus près, une étude? Parce qu'en fait, ça devient très compliqué. On a fait le plus facile, pour tout vous dire, en 2016-2017. Et maintenant, en fait, on a plusieurs kilomètres à débroussailler de part et d'autre des voies communales. Sauf que c'est la partie un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on est dans le massif. Parfois, on est sur des voies privées, donc ça s'enchevêtre. Il faut quand même regarder sur le cadastre jusqu'où on va, parce qu'on doit aussi débroussailler chez les privés, hein, si on n'est pas sur la commune. Il y a des priorités, il faut prioriser, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont prioritaires pour les pompiers, il faut qu'on voit avec eux par où il faut passer, les mesures de sécurité à prendre, voilà, et les coûts aussi. Donc l'idée, c'est de faire voilà une petite étude de mise au point, on va dire, de diagnostic, pour voir comment on planifie ces travaux de débroussaillement sur les prochaines années, c'est d'avoir un plan pluriannuel de débroussaillage pour la commune. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, en fait, elle concerne la mise en application du débroussaillage pour la commune. Donc, on prévoit d'allouer donc un budget de 42 000 euros et on demande bien sûr une aide au département, c'est l'objet de la délibération, 60%, pour réaliser cette phase de débroussaillage à l'issue de l'étude. Bien sûr, on va lancer l'étude et on espère avoir les conclusions là à l'automne pour commencer déjà une première partie du débroussaillage qui va nous être diagnostiquée. Voilà. Et enfin, la troisième partie de cette délibération concerne en fait les particuliers, puisque vous savez, on a déjà délibéré. On a engagé donc, pareil, un plan pluriannuel de diagnostic chez les particuliers, pris en charge par la commune. Donc, on a déjà fait une première phase. On a réalisé, pour information, 167 diagnostics à l'heure actuelle, c'est-à-dire à peu près 70, les trois quarts des diagnostics qu'on avait proposés aux habitants. J'ai pris quelques chiffres, voilà. On a réalisé 200 contrôles. parce qu'on a, on est allé contrôler également les gens qui avaient refusé le diagnostic. Il faut savoir qu'à l'issue des diagnostics, des 167 diagnostics, seulement 16% étaient en conformité avec les obligations légales de débroussaillement. Il faut savoir que c'est quand même un gros travail de débroussailler autour de chez soi, parce que c'est pas simple. D'où l'idée d'avoir un conseil qui vienne sur place. Donc l'idée, ça c'est fait pendant un an, c'est de reconduire l'opération, puisqu'en fait on avait envisagé sur 3 ans les phases de diagnostic. Et ce qui vous est proposé, donc, c'est de continuer l'opération de diagnostic proposée au Saint-Rémois à hauteur de 21 600 euros. Voilà, l'objet de la délibération, donc, c'est d'approuver ces 3 phases dans le programme de débroussaillage et d'autoriser Monsieur le maire à demander donc les aides auprès du département et de la région.
Bonsoir tout le monde. Et nous comprenons et nous adhérons à la mise en œuvre de cette OLD qui permet de mettre en place un dispositif en faveur de la prévention incendie. Avez-vous rallongé le délai de réalisation des travaux pour les particuliers? S'il vous plaît.
J'ai plus en tête.
Parce que ça devait se terminer en mars, je crois.
Peut-être que Pascal va sachant que l'obligation légale de débroussailler, elle existe depuis un certain temps, quand même, l'arrêté préfectoral. Mais les délais, j'ai plus en tête, on avait prolongé d'un peu plus d'un mois. Je vais laisser Pascal intervenir.
Alors, en fait, les diagnostics chez les particuliers devaient se dérouler. Pardon. Excusez-moi. Les diagnostics chez les particuliers devaient se terminer en février. On a déjà rallongé d'environ un mois. Ils se sont terminés le 15 mars. Ça, c'est pour la phase de réalisation des diagnostics, puisqu'on était sur une phase de mise en place et qu'il y a un certain temps de mise en place qui est un petit peu normal. Et sur le temps de réalisation des OLD, il y a toujours une phase de sensibilisation et de discussion, on va dire, lors de la phase de contrôle, pour s'adapter, bien entendu, au contexte individuel, à partir du moment où la personne contrôlée fait preuve de bonne foi et de volonté d'aller dans le sens de la mise en sécurité de sa propriété.
Passion ? Pardon. Oui, parce que nous souhaitons que tous les particuliers soient mis sur un pied d'égalité devant la loi, ça c'est sûr. Et ensuite, certains propriétaires dans les Alpilles nous signalent devoir payer de grosses sommes d'argent, d'investir de grosses sommes d'argent là dans l'année, parce qu'ils avaient une date à respecter. Et je me disais que peut-être on aurait dû commencer cette sensibilisation quelques mois, quelques années avant, pour pouvoir un peu étaler aussi les travaux sur ces propriétés. Bon, et nous désirons que les propriétaires et les promeneurs, bien sûr, soient sensibilisés à ce que vous commencez à faire. Et est-ce que dans l'avenir, cet été, il n'y aurait pas des agents formés qui se promèneraient un peu dans les Alpilles pour sensibiliser un peu les randonneurs et permettre un peu cette prévention incendie? Je vois plus dans ce sens une prévention que de couper du bois, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Les obligations légales des débroussaillement, nous on ne fait qu'appliquer la loi en fait. C'est-à-dire que c'est un arrêté préfectoral que le maire doit faire appliquer. Donc avant c'était l'ONF qui vérifiait ça. Donc à l'époque c'était Vincent Houlet qui était adjoint à l'environnement. Donc l'ONF le faisait gratuitement pour les communes en fait. Ça faisait partie des missions de l'ONF d'aller chez les particuliers, sensibiliser, contrôler. Maintenant c'est à la charge de la commune. On est la seule commune dans les Bouches-du-Rhône, voire même dans la région, parce qu'on a été pris pour exemple. On est même passé sous France 3 quand même sur les obligations légales des débroussaillages, d'avoir fait de proposer des diagnostics gratuits au Saint-Rémois. Il faut savoir quand même que c'est un investissement d'à peu près 90 000 euros sur 3 ans pour la commune. Donc en termes de sensibilisation, on est vraiment fortement en avance par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Ça se fait par ailleurs. Et en ce qui concerne les administrés, ça fait des années que c'est obligatoire. Ce qui se passe, c'est qu'avec les incendies qu'il y a eu les 2 dernières années sur Marseille, Vitrolles, le préfet a réécrit au maire, a vraiment insisté auprès de tous les maires en fait, pour leur rappeler que c'était à eux de contrôler, etc. Et dont la mairie de Saint-Rémy a vraiment pris le sujet très très au sérieux. Donc les Saint-Rémois, ça fait très longtemps qu'ils sont au courant. Normalement, ils sont censés être au courant, ils sont censés ignorer la loi, qu'ils doivent faire leurs obligations de débroussaillement.
Oui, ils étaient au courant, mais ils n'étaient pas poussés comme ils sont.
Voilà.
Ils l'ont été cette année.
Eh bien, on l'est parce que je crois que personne n'a envie que le massif brûle et que les maisons brûlent. Il faut savoir que c'est des problèmes de sécurité. Alors, j'entends bien que pour certaines personnes, ça fait beaucoup de travaux, ça, je le comprends bien. Mais on est obligé, enfin, je veux dire, à un moment donné, si on commence à lâcher du lest, ça va être.
Donner du temps, quoi.
Bah après, comme on vous a dit, enfin, l'éco-garde, c'est Patrick Tournaire, il sait quand même faire la part des choses. Hein. Et pour la deuxième partie de votre question, il faut savoir qu'il y a le parc hein, qui, chaque année, met à disposition les APSIF. Hein, alors, le terme, c'est des jeunes en forêt, hein, le terme pour faire plus court. Donc là, justement, on a invité une réunion là début avril pour la mise en place de ce nouveau programme là pour cette année. De mémoire, c'est 16 jeunes qui sont positionnés sur le massif des Alpes, dont une partie à Saint-Rémy, au lac, au parking de Glanome et à la Com, notamment sur les endroits stratégiques, il y a beaucoup de monde, pour sensibiliser les promeneurs, bon, les Saint-Rémois qui passent, sur le risque incendie. Donc il y a déjà quand même quelque chose qui est fait. Il y a aussi le comité feu et forêt hein, qui circule énormément, hein, je parle sous le contrôle de Pierrot Lapeyre, hein, qui sont quand même une vingtaine de bénévoles sur Saint-Rémy, soutenus par la municipalité, qui tournent aussi bénévolement dans le massif pour également expliquer, sensibiliser et prévenir les incendies. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Après, c'est une responsabilité aussi de chacun. Je pense que tous, quand on habite dans une région comme Saint-Rémy et qui plus est dans le Piémont, on sait qu'il y a quand même des précautions à prendre. Hein. Donc voilà, la mairie, on met tous les moyens qu'on peut. Après, à chacun aussi d'être responsable.
Est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte dans une de vos priorités la réfection du chemin de Valrugue pour faire... pour donner une voie supplémentaire aux pompiers?
Alors, le problème de Valrugue, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'est que nous allons entrer en contentieux avec Orange, puisque je vous avais annoncé que, vous savez, on a enfoui donc la ligne haute tension, on a proposé à tous les opérateurs de passer donc dans la tranchée qui a été faite sur la D5, y compris Orange, qui a refusé, qui a dit qu'ils n'étaient pas intéressés, qu'ils allaient communiquer à Nercy, etc. Je pense que vous avez été informé que cet été, on a surpris notre opérateur en train de vouloir faire passer des câbles dans Valrugue alors que c'était formellement interdit, on a dû faire un référé, voilà, en train de se battre contre Orange pour qu'il enlève ses gaines actuellement et qu'il remette en état. Et on va être obligé d'aller au contentieux. Je suis assez en colère parce qu'en arrivé là, c'est quand même un fort de café, excusez-moi. Donc l'idée de réhabiliter, c'était quelque chose justement qu'on était en train de réfléchir. Si on réhabilite, ça sera très léger parce qu'on ne pourra pas faire passer des engins lourds. Mais pour l'instant, on en est à vouloir faire en sorte que Orange s'en aille et on va être obligé pour ça d'aller au contentieux. Voilà.
D'accord. Et ce que nous souhaitons surtout, c'est que cette obligation de débroussaillement soit opérée dans le respect de l'environnement paysager. Car les Alpilles font partie de notre patrimoine environnemental et
Forêt, on en est à élaguer de part et d'autre de 10 mètres des voies. Et je vous dis une fois de plus, moi je suis comme vous, mais c'est une obligation. Hein. C'est un mal pour un bien. Hein. Voilà. Ça, après, on ne peut pas y couper. S'il y a un incendie, je peux vous dire qu'on pleurera tous. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein.
Oui, par contre, je crois, et Martine l'a dit, mais je pense qu'il y a des particuliers qui vivent très mal, non pas le contrôle, évidemment, mais, enfin, si, le diagnostic passe encore, mais le côté quand même assez répressif. Et on leur laisse quand même pas beaucoup de temps et de discussion pour enlever notamment des choses quelquefois. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, parce qu'on fait pas nous-mêmes les contrôles, on se rend pas sur place, mais quelquefois on nous parle de beaux cyprès bien haut, près de la maison, parce que c'est joli, c'est esthétique, c'est, voilà, un arbre qu'on a fait pousser depuis très souvent le moment de la construction. Et on demande à ce qu'il soit coupé, quoi, supprimé. Et ça, c'est, je pense que c'est mal vécu. Et c'est dommage.
Tout à fait. Mais alors, vous auriez dû venir à Rayon Public que nous avons organisé en mai l'année dernière. Et je regrette. Alors, peut-être que l'information.
Mon mari y était et il y avait très, très peu de monde.
Voilà,
mon mari,
c'est bien regrettable parce qu'il y avait des interventions très intéressantes, voilà, des pompiers. Et je peux vous dire que moi-même, j'ai pris conscience du danger. Et ma maison aussi, j'ai un cyprès qu'il faut que je coupe. Parce qu'en fait, on est nombreux à avoir un cyprès près de la maison. Mais c'est ça. Une torche. Enfin, moi, honnêtement, que les gens laissent leur cyprès, ça me dérange pas. Tant mieux pour eux. Mais s'il y a un feu, voilà, c'est toutes les branches qui sont au-dessus des arbres, c'est pas pour le plaisir. Honnêtement, on aurait mieux à faire les 90 000 euros qu'on met dans les diagnostics, vous savez, on les mettrait ailleurs. Hein. C'est vraiment pour la sécurité, avant tout, des biens et des personnes hein, qui ont été pris ces arrêtés. Et effectivement, ça fait mal au cœur parce que parfois, il va falloir couper des arbres près des maisons. C'est pour la sécurité des maisons. Voilà, je suis désolée,
oui,
mais...
Et c'est vrai que c'est cet équilibre très fragile entre, justement, le côté quand même provençal qui va être abandonné parce qu'on nous fait couper tout ce qui représente notre patrimoine.
Alors après,
patrimoine.
Il agit avec discernement l'éco-garnet, c'est-à-dire que selon d'où vient le vent, etc. Et d'autre part, je vais juste dire encore une chose, je suis quand même étonnée que les administrés ne se manifestent pas auprès de la mairie. Hein. Moi, j'ai une permanence, un service environnement. Alors, peut-être que Pascal a eu des... on a eu une dame qui nous a écrit un courrier qu'on va recevoir, parce qu'effectivement, elle a raison dans son courrier. Il y a certaines choses qu'il faut revoir. Après, moi, que les gens, bah, écoutez, le numéro de service environnement sur tous les documents, On a été saisi une fois. Donc moi, je m'étonne parce que je découvre là en conseil municipal par l'intermédiaire de votre voix, voilà, ce genre de réaction, mais que les gens nous contactent. Enfin, je veux dire, on n'est pas là fermé, on est là pour faire appliquer la loi du mieux possible, le plus intelligemment possible. Hein, c'est vraiment pas pour se faire. Voilà, on s'en passerait quoi.
Dire de venir directement vous voir.
Ok. Bon, merci. Il y aura tous les
renseignements. Pour ajouter quelque chose, quand même, la loi d'obligation de débroussaillage, elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est à plus de 10 ans. Hein. Moi, du temps que je travaillais au forestier sapeur, la loi, elle y était. Hein. Et les gens, malheureusement, mais maintenant, c'est un peu plus sévère, mais on le fait. Et ce que je veux dire à Mme Pascal, c'est que aussi pendant 2 ou 3 mois, il y a les sapeurs-pompiers, c'est les professionnels, avec les forestiers-sapeurs qui patrouillent. Alors les Alpies, je pense qu'elles soient bien gardées. Parce que quand il y a trop de monde, il ne faudrait pas qu'il nous arrive un grave accident dans la montagne, hein, sur les crêtes. Mais c'est très bien, il y a le comité feu, comme elle a dit Gisèle, il y a maintenant le parc, il y a les forestiers-sapeurs qui patrouillent à partir du 1er juillet, jusqu'à fin septembre ou mi-octobre, et aussi les sapeurs-pompiers qui, eux, ils sont tous les jours. Hein. Quand il y a du vent, ils sont là. Alors, je pense qu'au niveau prévention, on est dans les Bouches-du-Rhône, je ne parle pas que de CRMI, on est bien doté.
Bien. Donc, concernant cette stratégie communale pour la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, qui s'oppose? Qui est contre? Pas de contre. Abstention? Unanimité. Alors je profite de l'occasion, puisque la délibération a été présentée par Gisèle Ravès, pour la féliciter évidemment de tout le travail qu'elle fait en tant qu'adjointe. Elle est aussi rapide que ce qu'elle parle. Mais je tiens à vous dire qu'elle va être décorée de l'Ordre National du Mérite le 26 avril par M. Dartout, le préfet de région, qui se déplace à Saint-Rémy pour l'occasion, donc c'est quand même un signe de reconnaissance, donc au titre d'adjointe à la mairie de Saint-Rémy, mais je pense surtout au titre de présidente du CICAS, canal qui a connu une histoire mouvementée, comme vous le savez, hein. On a eu l'occasion d'en parler ici à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le CICAS est toujours debout, grâce, entre autres et essentiellement, à Gisèle Ravès. Donc, je pense que si elle est décorée de l'Ordre National du Mérite, c'est surtout à travers cette présidence. Donc, vous êtes évidemment toutes et tous invités le 26 avril au soir pour la décoration de notre collègue, qu'on peut applaudir, je pense. Je crois qu'il y a une mail qui a dû partir aujourd'hui, qui va partir. Bien, toujours Gisèle Ravès pour les ruches.
Cette délibération est enfin, plus classique, on en a déjà passé de ce type-là. C'est en fait donc un apiculteur qui demande à pouvoir disposer des ruches sur le domaine communal. Donc on a des conventions type hein, avec des tarifs établis. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'accepter donc que ces ruches soient déposées au lieu dit Coste-Plantier Gaudre de la Fourcole, je ne connaissais pas ça. Donc 110 ruches à 1,90 € par ruche. Voilà, ça fait donc un montant de 209 € par an.
Merci pour ces ruches. On peut délibérer. Qui est contre? Abstention? Unanimité? On passe maintenant aux travaux forêts. Monsieur Lapeyre.
Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, on va entrer encore un peu dans les arbres. Conformément au plan d'aménagement et de gestion de la forêt communale, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2016, et dans le cadre des travaux de gestion et d'amélioration de la forêt, il est projeté de réaliser en 2018 les travaux suivants. Création d'un périmètre parcelle forestière 6, canton Valmoriane, et parcelle forestière 12, canton du Mas des Piboules, sur 1,45 km, si vous préférez. Création de périmètre ouverture de layon avec peinture de lisère et placard, de liseré et placard sur la parcelle forestière 6, canton de Valmoriane, et la parcelle forestière 12, canton du Mas des Piboules, sur 0,7 km. Création de parcellaire. Traitement manuel des layons, parcelle forestière 6, canton de Valmoriane, sur 0,750 km. Création de parcellaire peinture sur la parcelle forestière 6, canton de Valmoriane, et la parcelle forestière 67, canton du Grand Fourré, sur 3,6 km en tout. En entretien de périmètre, traitement manuel et peinture, sur la parcelle forestière 12, canton du Mazipiboule, et sur la partie forestière 67, canton du Grand Fourré, sur 0,450 km. Les emplacements et les projets des travaux vous sont précisés par les cartes que vous avez derrière. Le montant des travaux, 6 500 € hors taxes, soit 7 150 € TTC. Les montants correspondants seront inscrits au budget primitif de la commune pour 2018. Je propose au conseil municipal d'approuver ces travaux ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces utiles à l'exécution de la présente décision.
Merci. Et juste une chose, il y a la fin de l'élection.
Oui, c'est possible. Vous aurez l'autre après.
Oui.
Oui.
Après, je vais vous parler des subventions, c'est plus intéressant, tu vois, il y a un peu de sous à prendre.
Bon, si ça ne vous pose pas de problème, je vous propose de passer au roi, enfin, s'il n'y a pas d'intervention, celle-là, et puis après, il présente.
Non, simplement, comme tout à l'heure, nous le disions, ça serait bien qu'on nous dise sur quelle ligne les montants correspondants seront inscrits au budget.
Là, monsieur Vallée, vous pouvez le dire.
21-312.
Merci.
Ou 23-12, ça dépendra du mode de règlement en une fois ou plusieurs fois.
Bien, donc sur la deuxième délibération, le non subventionnable, est-ce qu'il y a des oppositions? Qui est contre? Abstention? Unanimité? Alors la première maintenant.
Bon, alors, travaux subventionnés d'amélioration de la forêt. Je ne vais pas vous relire les premières lignes, c'est les mêmes que sur la délibération d'avant. Bon, sur la parcelle forestière 67. Canton du Grand Fourré, mise en andain partielle suite à la coupe de bois sur une surface totale de 5,5 hectares. Sur la parcelle forestière 67, toujours canton du Grand Fourré, broyage des rémanents après coupe sur une surface totale de 5,5 hectares. Sur les parcelles forestières 5, 6, 10 et 11, canton de Valmoriane, entretien de chemin d'exploitation sur une longueur totale de 4 km. Sur la parcelle forestière 29, canton de Gavon, entretien de chemin d'exploitation pour une longueur totale de 0,6 km. Les emplacements de ces projets sont précisés sur les cartes en annexe. Le montant total des travaux est de 14 878 € hors taxes, soit 16 357 € TTC. Les dépenses et la dépense est subventionnable par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la hauteur de 60% maximum du montant total des travaux hors taxes. Le plan de financement pourrait être le suivant. Participation du conseil départemental 60%, 8 922 €. Autofinancement 40%, 5 948 €. Les montants correspondants seront inscrits au budget, je ne vous lirai pas la ligne. Je vous demande d'approuver ces travaux et d'autoriser monsieur le maire à solliciter l'attribution d'aide publique auprès du conseil départemental et de signer les pièces utiles à l'exécution de cette décision. Merci.
Bien. Personne ne souhaite intervenir. Alors on passe aux voix sur ces propositions de travaux subventionnés. Qui est contre? Abstention? Unanimité, et je remercie M. Lapeyre pour suivre ces dossiers.
Je vous en prie.